Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour un nouveau numéro de cette émission dédiée cette saison à la découverte des communes de Toulouse Métropole, un cycle qui nous a permis jusqu'alors d'en explorer une dizaine parmi les 37 que compte la collectivité métropolitaine. Quand je dis explorer, il faut comprendre que cette exploration inclut aussi bien le territoire de ces communes que leur histoire et leur patrimoine, voire leur tissu économique. Et si l'on retrouve des similitudes d'une commune à l'autre, on note aussi des particularités propres à chacune d'entre elles, notamment lorsque l'on compare les parties nord, sud, ouest ou est de la métropole. On constate que la topographie, les paysages, les sols façonnent autant les hommes et leur histoire que l'inverse. Après avoir consacré récemment des numéros à des communes de l'est et du sud métropolitain, retour à l'ouest où après Blagnac et Pibrac, nous allons aujourd'hui nous intéresser à Mondonville. Voici une émission pour savoir tout ou presque tout sur l'histoire, le patrimoine et le territoire de la commune mondonvilloise. Deux Mondonvillois ont accepté de participer à ce numéro consacré à leur commune. Ils s'appellent Alain Poujol et André Valette. Tous deux sont membres de la section Histoire et Patrimoine du foyer rural de Mondonville. Merci beaucoup messieurs d'être présents au rendez-vous. Bienvenue à vous aussi. Alors, ce travail, ces recherches que vous effectuez au sein de cette section Histoire et Patrimoine du foyer rural de Mondonville, en quoi consiste-t-il et peut-être d'abord tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie à l'un et à l'autre de les entreprendre ?
En 2014, nous avons essayé de reconstituer la vie et le parcours des poilus de 14-18 qui sont morts à Mondonville, dont les 20 qui sont sur le monument aux morts. Et à partir de là, nous avons réalisé un recueil qui a retracé la vie de ces personnes-là, qui ont malheureusement sont morts à la guerre. Et à la fin, nous avons écrit ce recueil et ensuite nous avons pensé effectivement continuer nos recherches sur l'histoire de Mondonville depuis le début des informations que nous pouvons avoir, même de la préhistoire, grâce à la recherche de l'IRAP qui a été faite sur le territoire de la commune lors du tracé de l'itinéraire Grand Gabarit pour le passage de l'Airbus.
Oui, l'Airbus A380, donc ça a commencé il y a quelques années, évidemment, on a creusé et c'est souvent là qu'on met au jour des vestiges, des objets. Alors, ce foyer, plutôt cette section Histoire et Patrimoine du foyer rural de Mondonville, comment fonctionne-t-elle ? Vous êtes combien de membres ? Vous vous réunissez avec quelle périodicité ?
On se réunit à peu près tous les mois, dans la mesure du possible. Le deuxième mercredi du mois, l'après-midi, suivant l'avancement des travaux ou la possibilité d'être certain, on est une douzaine de membres. C'est une réunion qui est plutôt amicale, c'est pas des trucs très très...
Oui, vous faites pas un travail d'historien professionnel, voilà, exactement, ça reste convivial.
Et après, bon, c'est parti au départ sur des petites recherches en fait, qui nous ont passionnés et tout le monde s'est pris au jeu.
Mais évidemment...
Et plus on cherche, plus on trouve, et c'est donc on continue tout le temps.
C'est ça, on prend le petit bout de la pelote et puis on tire, et puis ça fait
quelque chose.
Il y a toujours des choses qui viennent.
On va aux alentours dans les communes, des historiens limitrophes, effectivement, nous fournissent toujours des informations supplémentaires, ce qui est passionnant. Et surtout, une chose essentielle, c'est qu'on continue à rencontrer des gens, et justement ce lien social qui se
bien
fait
sûr.
Grâce à l'histoire, grâce au passé.
Ouais, passé
on est dans le présent,
le présent
des gens.
Au départ, c'est vraiment un truc de réunion comme ça, puis finalement, on s'aperçoit que on se prend au jeu et en voyant des gens d'autres communes, on arrive à sortir des histoires qui sont complètement...
Insolites parfois, oui. Et puis on découvre des personnages.
Oui.
Bien, merci de nous avoir présenté la section Histoire et Patrimoine du foyer rural de Mondonville, ses activités et les travaux qu'elle a menés jusqu'alors, parce que ça continue bien sûr. C'est sur eux que nous nous appuierons dans quelques minutes lorsque nous partirons à la découverte de l'histoire et du patrimoine de votre commune en votre compagnie. Dans les médias, nous avons rendez-vous avec Corinne Saint-Félix qui va nous proposer son flash d'information métropolitaine comme chaque semaine. Métropolez-vous, l'actu. Une information dans le domaine du logement pour ouvrir ce flash. L'Occitanie est en retard en ce qui concerne le logement social.
Oui, la Fondation Abbé Pierre a publié son 25e rapport sur le mal-logement. 15 millions de personnes sont concernées en France. En Occitanie, région sous-équipée en logements sociaux, la situation s'aggrave dans les métropoles de Montpellier et Toulouse. Selon la Fondation, à cause de sa forte croissance démographique, l'Occitanie souffre d'un retard historique et structurel en termes de production de logements sociaux. Malgré une hausse des constructions, la part de ces logements dans le parc des résidences principales tourne toujours autour des 10% dans la région, alors qu'elle est de 16% sur l'ensemble de la France métropolitaine. En décembre, Toulouse Métropole a signé un accord départemental pour le relogement des personnes les plus défavorisées du département. La signature de cet accord s'inscrit dans une démarche plus large menée en 2019 qui fixe le cadre de l'action publique dans le domaine du logement en Haute-Garonne. 3600 logements seront consacrés tous les ans au relogement des publics prioritaires en Haute-Garonne contre 1800 aujourd'hui.
C'était dans les tuyaux, si j'ose dire. Une partie de l'ancienne base aérienne de Francazals sera bientôt dédiée au transport du futur.
Et oui, la préfecture de la Haute-Garonne a annoncé la cession de la partie sud de l'ancienne base aérienne 101 de Francazals à Toulouse Métropole. L'espace sera dédié à l'implantation d'entreprises travaillant sur les mobilités du futur, que ce soit pour les véhicules sans chauffeur, les drones, la robotique ou l'aéronautique. De nombreuses entreprises et start-up pourraient s'installer et développer ces technologies à Cugnaux. Cette cession vient logiquement après l'installation sur site de deux géants de la mobilité, EasyMile, pionnier français du véhicule autonome, et la fameuse société Hyperloop Titi qui développe la construction de son train électromagnétique composé de capsules de 32 mètres de long et de 2,70 mètres de diamètre, lancées chaque 40 secondes.
Et nous terminons ce flash avec une information qui devrait faire plaisir à toutes celles qui nous écoutent. La Journée internationale des femmes et des filles de science se décline dans la métropole toulousaine.
Oui, l'UNESCO déclare le 11 février comme étant la Journée internationale des femmes et des filles de science. Depuis le 1er février, des événements sont organisés dans 4 communes de Toulouse Métropole. Objectif, promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Ces journées permettent de rappeler que les femmes jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. BALMA, Brax, Toulouse et SEI accueillent donc plusieurs manifestations coordonnées par l'association Les Chemins Buissonniers pour la Fédération Française des Clubs pour l'UNESCO. Vous pourrez y découvrir À la recherche du sonore, une conférence spectacle, ou encore L'anthropologie sur les îles du Pacifique, une conférence spectacle animée par Guigon Camus, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, membre aussi du laboratoire IRIS.
Voilà, c'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Retour maintenant au thème principal de cette émission que nous consacrons, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, à l'histoire, au patrimoine et au territoire de la commune de Mondonville.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropole et vous, la suite avec nos invités Alain Poujol et André Valette, deux Mondonvillois, membres de la section Histoire et Patrimoine du foyer rural de Mondonville. Et comme le veut la coutume, depuis que nous avons commencé ce cycle d'émissions sur les communes métropolitaines, je vais vous demander d'abord quelle est l'étymologie du nom Mondonville, quelle est son origine, et puis peut-être d'abord l'époque à laquelle la commune le prend.
Alors, Mondon représente un anthroponyme germanique, donc d'une personne germanique qui était Mun, et ensuite ville, comme Villae, donc domaine agricole de l'époque romaine, gallo-romaine.
Voilà, domaine rural, domaine agricole. Donc, oui. Quand on est anthroponyme germanique, quand on dit germanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire visigoth? Ça veut dire...
Ça, je crois que c'est là, qui vient, disons, de la partie au-dessus de la Loire, bien au-delà même.
Oui, ça reste un peu mystérieux.
Ça reste mystérieux.
Je crois que personne ne peut dire exactement.
Et la commune donc devient Mondonville à quelle époque?
Mais elle sort, dans les écrits que l'on a, elle sort sous le nom de Mondonville aux alentours de 1040, sous la possession de Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse. Donc c'est à ce moment-là que le nom de Mondonville apparaît.
Voilà, la première fois.
La première fois, oui.
Voilà, donc ce serait un petit peu après l'an 1000. Oui. Entre l'an 1000 et le milieu du XIe siècle.
Qui a été donné lors de la passation, la dot de Gervaise, donc de la fille de Taillefer, qui a épousé un Lille-Jourdain.
Alors voilà pour le moment où Mondonville devient Mondonville. Si on remonte dans le temps, sur ce territoire, je suppose comme sur les territoires des autres communes autour de Toulouse, on trouve des traces de communautés humaines très anciennes tout de même.
Tout à fait, Akhenéenne, donc de 5000 ans avant Jésus-Christ.
Donc c'est néolithique là, on trouve comme un peu partout des objets, c'est-à-dire des silex taillés.
Des silex taillés, des
pierres taillées, des pierres polies.
Des gros, alors il y a quelques objets qui sont de gros morceaux de pierre, on ne sait pas très bien le dater, je ne sais pas, mais à quoi ça servait. Bon, après il y a les silex normaux. Bon, ça...
Et alors il s'était justement positionné, ce campement était là, parce qu'il y avait à proximité un point d'eau qui était le ruisseau du Gajan, où justement il pouvait aller s'alimenter. Et aussi les animaux qu'il chassait devaient venir aussi s'abreuver, donc à ce moment-là il pouvait les tuer.
Je vois qu'il est question d'un site aqueléen.
Voilà, oui.
Un lieu dit qui s'appellerait l'Abadie.
L'Abadie, effectivement, qui a été fouillé par l'IRAP lors de la création de l'itinéraire Grand Gabarit.
C'est 150 000 ans avant Jésus-Christ, donc le site aquéléen à l'Abadie. Alors, une particularité tout de même, parce que, bon, après on arrive à l'époque gallo-romaine, mais entre-temps, il y a quelque chose de très intéressant qui a été trouvé à Mondonville, c'est une tête celtibère. Alors, qu'est-ce que c'est une tête celtibère? C'est une poterie, c'est une pierre taillée en forme de visage.
Une pierre taillée en forme de visage, grossièrement taillée en forme de visage.
Et une caractéristique, justement, c'est qu'elle a un œil qui est un petit peu fermé. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres pierres et sculptées comme ça dans d'autres endroits, en particulier en Espagne aussi. Donc, celtibère qui ont été chassés par les villes et...
Qui sont
venus s'installer sur la région et qui ont aussi accepté rapidement d'être romanisés.
Donc celtibère, bon, pour les gens qui ne savent pas, les gens du Portugal et les gens du nord-ouest de l'Espagne, la façade atlantique, se décrivent eux-mêmes comme des celtibères. Alors, cette tête, d'abord, elle a été trouvée en quelle année et où est-elle? Est-ce qu'on peut y avoir accès, voir quelque part?
Elle a été trouvée en 1982, à 3 mètres de profondeur, au cours de terrassement à la Vitarelle. Et aujourd'hui, cette tête est dans les réserves du musée Saint-Raymond, donc de Toulouse.
Le musée des Antiques.
Et alors, nous essayons d'en savoir un peu plus grâce à l'aide de la DRAC.
Période gallo-romaine, est-ce qu'il y a des vestiges particuliers ou seulement des objets, rien d'autre?
Des pièces de monnaie de différentes époques, sous différents empereurs.
Mais il n'y a pas de reste de villa ou d'emplacement de villa identifié.
Avec de belles colonnes en marbre, non.
Non, vous n'avez pas ça.
Désolé.
Mais non.
On aimerait.
Les Visigoths, pas de passage dans le coin, pas d'installation.
Les Visigoths ont dû
passer.
Ils ont dû venir utiliser les exploitations agricoles devaient toujours exister pour alimenter, de toute façon, leur capitale qui était Toulouse pendant 100 ans.
Alors, le territoire, après, on arrive au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe entre donc cette période gallo-romaine et la fameuse année 1040 où apparemment apparaît pour de bon Mondonville? Est-ce qu'il y a des faits, des personnages?
On n'a pas d'écrit, pas de traces. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Voilà,
jusqu'en l'an 1000, grosso modo, rien à signaler. Donc après, 1040... fameux seigneur, donc ça serait le premier seigneur de Mondonville, Guillaume III Taillefer.
Guillaume III Taillefer, qui serait le fils de Ponce, comte d'Albigeois. Et après, le Mondonville est passé par dot, par mariage, par achat. C'est même promené d'un comte d'un marquis à l'autre, donc jusqu'au comte de Villemur. Même les comtes de Villemur qui sont sur Mondonville. Les comtes d'Armagnac.
Les comtes des Bourbons, Henri IV, aurait eu aussi au moment aurait été en possession de la communauté.
De la seigneurie de Mondonville, oui. D'accord. Sans doute aussi les Dufort de Pibrac.
Dufort de Pibrac, bien sûr.
En voisin.
Les Aliès, les Dubourg, les...
J'ai vu Charles de Turle.
Alors Charles de Turle, il l'aurait ensuite acheté ou récupéré, je ne sais pas très bien, en 1620. Ensuite, ce Charles de Turle est connu pour être l'époux de Madame de Mondonville, qui a été une femme qui a fait un monastère sur Toulouse avant de se faire enlever tous les pouvoirs qu'elle avait. Et en 1692, alors c'est des dates approximatives. Non, là c'est des bonnes dates quand même, qui sont notées. Il y a la famille d'Aliès, en 1757, un Valentin Dubourg. Après, on passe dans des trucs beaucoup plus récents.
Alors tout de même, les propriétés donc, sur Mondonville, est-ce qu'il y en a qui appartiennent au Capitoul, comte de Toulouse?
Il y a seulement, enfin, à une époque, donc, par succession, plutôt les Dominicains qui ont eu effectivement un territoire assez important qui se nomme aujourd'hui le Colomé, qui a été magnifiquement restauré et qui effectivement, c'est pas mal de terres qui permettaient aux Dominicains de s'approvisionner en nourriture et de fournir aussi la soupe populaire, non, on dit Saint-Nicolas, hein, à l'époque, donc qui permettait aussi de vivre eux et aussi de donner de la nourriture aux pauvres.
Alors peut-être que Saint-Dominique est venu à Mondonville.
Il y a une croix Saint-Dominique dans la forêt de Boucone où effectivement il serait passé, mais aussi il est passé au monastère de la Capelle, à Merville aussi, à Grand-Selve. Bon, enfin, effectivement, il a certainement circulé un petit peu dans toute la région, autour de Toulouse, quand il suivait aussi les troupes de Simon de Montfort.
Est-ce qu'il y a la présence d'un château ou de bâtisses très anciennes qui demeurent aujourd'hui à Mondonville ?
Il y a le château de la Tour, qui est une bâtisse qui date du 1300 déjà, puisqu'on était à la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, enfin, ou du moins les possessions. Le royaume, c'est un grand mot, hein, les possessions. Hein. Donc ce château devait être frontière limitée entre les deux, mais certainement pas très puissant, il était facilement assiégeable.
Ouais. Sinon, il y a quelques bâtisses anciennes.
Il y a quelques bâtisses qu'on appelle pompeusement les châteaux, qui sont faites des grandes maisons de maîtres, qui ont été restaurées, certaines, bien restaurées, qui sont entretenues.
Mais après, bon, qui appartiennent à des particuliers aujourd'hui.
Oui. Ce qu'on peut rajouter sur le château, qui effectivement, c'est une vieille bâtisse, et dont les seigneurs de l'époque ont bien voulu, ont démoli le château, la tour en particulier, qui faisait plus de 35 mètres de hauteur, et ont démoli pour reconstruire un château plus aéré, plus éclairé, et toutes ces briques ont servi à construire une ferme, qui est aujourd'hui la ferme de la Tour, et qui a été transformée en hôtel-restaurant, qui sont les écuries de la Tour.
Alors il y a tout de même, puisqu'on parle du patrimoine, un bâtiment remarquable qui demeure, moins ancien certes, mais c'est la tour de l'horloge. Qu'est-ce que c'est la tour de l'horloge ?
À l'époque, le maire de l'époque avait demandé la construction d'un relais de poste, d'une poste, et ça n'a été accepté qu'à la seule condition qu'il y ait une horloge sur la commune.
Et justement, ce qui est l'anecdote intéressante, comme la commune n'avait pas d'argent, c'est lui, le maire de Montespan, qui a avancé l'argent pour construire cette tour. Oui, donc dessus, ils ont installé bien sûr l'horloge. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'effectivement, normalement, les horloges étaient placées sur les murs des églises, mais à Mondonville, ça n'a pas été possible. On aurait été intéressé de savoir quelle était la raison, quelles étaient les relations entre le maire et le curé. Est-ce que l'église étant trop ancienne, peut-être qu'il savait qu'il fallait la reconstruire, comme ça a été l'époque, la grande époque en 1850, 60, 70, un peu partout. Donc on ne sait pas précisément s'il y avait un antagonisme entre les deux personnes. Voilà.
C'est quelle époque la tour de l'horloge ?
1850.
Donc milieu du 19e, hein, voilà. Ou en tout cas deuxième moitié du 19e. Alors, Révolution française, tout de même, avant de parler du 19e, pas de fait particulier, saillant, à Mondonville ?
Non, on ne sait pas effectivement s'il y a eu quelque chose. On est en train de faire des recherches à ce niveau. Lorsqu'on se fie effectivement à certains écrits par rapport à ce qu'ont écrit des historiens dans les communes environnantes, je dirais les paroisses environnantes, on se pose la question quelle était l'attitude des curés à l'époque. On ne sait pas trop, parce que la plupart étaient réfractaires, effectivement, ne voulaient pas signer la convention civile. Et la seule chose qu'on trouve à Mondonville, c'était le premier acte d'état civil où il est écrit à la fin de l'acte que la personne, enfin l'enfant a été baptisé par abbadi citoyen prêtre de Mondonville, de la paroisse.
Bataille de Toulouse, a priori, pas de passage de Wellington et ses troupes sur le territoire de la commune.
Alors, on ne sait pas s'ils ont venu faire des razzias, enfin se venir s'approvisionner, ça c'est quelque chose qui était souvent très
oui.
Le cas. Il paraît, mettons, au niveau lorsqu'il y a eu le passage de Simon de Montfort, il ratissait un peu partout, même dans la vallée de Save, tout ça.
19e siècle, on a parlé de la tour de l'horloge, mais je suppose qu'à l'époque, ça reste une commune très très rurale.
Tout à fait rural.
Essentiellement, la population, ce sont des agriculteurs.
Des agriculteurs avec bien sûr tout ce qui est indispensable à l'autarcie d'une vie communautaire, avec bien sûr les artisans qui étaient sur le territoire.
Pas un territoire de vignes, parce qu'il y avait des communes.
Il y a eu quelques vignes, mais...
Alors, justement, dans la monographie, l'instituteur Sabaté, en 1860, a écrit qu'effectivement, il y avait quand même 180 hectares de vignes sur Mondonville.
Ah oui, tout de même.
Et qui vendaient, bien entendu, c'était les grosses périodes, qui vendaient leur vin sur Toulouse.
Pour approvisionner Toulouse.
Lorsqu'il y a eu, effectivement, l'épidémie de phylloxéra, à ce moment-là, beaucoup de vignes ont disparu, comme un peu partout dans la région.
Comme un peu partout autour. Voilà. C'est quelque chose de récurrent là, dans les communes.
Et alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont bu exactement, s'ils buvaient du vin ou de l'eau.
De l'eau, hein. Donc, la guerre de 14, donc, vous faites ce livre sur les Mondonvillois qui sont montés sur les fronts de l'Est et dont beaucoup, bah, comme souvent malheureusement, ne sont pas revenus. Ils sont combien à être partis
Ils sont 20 qui ont été tués, qu'on a répertoriés, et il y a une centaine qui ont passé à un moment donné sur Mondonville, qui ont été sur les champs de bataille. Voilà, qu'on peut dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de...
De familles qui ont été sans doute très endeuillées, voire...
Bien sûr. Et ce qui a modifié tout à fait, effectivement, l'aspect économique de Mondonville, qui ensuite, après la fin de la guerre, à la fin de 1918, il a fallu effectivement qu'il y ait de nouvelles populations qui viennent sur Mondonville.
Oui, parce que la population avait évidemment beaucoup baissé, et en plus c'était les jeunes.
Et donc, c'est à ce moment-là que beaucoup d'Italiens sont venus sur Mondonville. Ils sont toujours à Mondonville, bien sûr, de vieilles familles.
Qui ont fait souche depuis. Qui sont installés.
Que nous côtoyons, bien entendu.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant avant de parler de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 1934, alors j'ai vu ça, vous allez m'expliquer ce que c'est, il y a eu une réunion de 400 carlistes en présence d'Alphonse Charles de Bourbon sur la propriété du légitimiste Joseph Dubourg. Qu'est-ce que c'est, cette histoire?
Joseph Dubourg, qui était un militaire légitimiste, a autorisé, enfin autorisé
ou invité
une réunion de 400 carlistes sur certaines histoires. Il sort que les carlistes sont la faute, entre guillemets, de pas mal de guerres. Après, on sait qu'ils sont venus, mais après...
C'est pas ce qui s'est passé exactement, la réunion, en quoi ça a consisté?
Non, ça on ne sait pas. Ce qu'on sait effectivement, c'est que Valentin Dubourg était secrétaire du comte de Chambord, donc des descendants qui auraient pu être effectivement... Il aurait pu être roi.
Voilà, mais il y avait Alphonse Charles de Bourbon. Alors, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. L'occupation à Mondonville, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Des faits de résistance, peut-être?
Alors, des faits de résistance, on ne connaît pas. En ce qu'on connaît, effectivement, lorsqu'ils sont arrivés à Mondonville, certains ont été bien accueillis, parce qu'il y a eu des gens qui ont offert des gâteaux aux Allemands quand ils sont arrivés, donc en 1942, en novembre, je dis ça de tête. Ce que l'on sait, effectivement, que les gens se méfiaient énormément, ils avaient peur quand même. Les Allemands allaient s'approvisionner dans les fermes plus ou moins. Certains payaient. Visiblement, c'était pas trop de... Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les parents faisaient rentrer les filles. Quand ils venaient par là, vite, ils se cachaient un petit peu. Il y a eu aussi un épisode, c'était à Ossonne, où effectivement, il y a eu un accrochage. Et donc, il a été demandé à des gens qui étaient en train de faire perdre leur troupeau de rentrer vite chez eux. Et ensuite, quand les Allemands patrouillaient, aussi, Frantus capote, ils disaient. Enfin, bon, il y avait quand même une grande peur. Et surtout, aussi, ce qu'on a perçu, c'est qu'il y avait des gens qui devaient être très sympathisants. Il ne faut pas oublier que certains en France à cette époque-là disaient plutôt les Allemands que le Front Populaire. Il ne faut pas oublier ça. Donc effectivement, il y avait ces deux courants, je dirais aujourd'hui politiques, ces deux courants qui faisaient que...
Il y avait beaucoup de tensions.
Il y avait des tensions apparemment, mais bon, comme dans les vieilles familles, tout ça, c'est des non-dits, c'est des...
Par contre, aujourd'hui, effectivement, encore lorsqu'on interview, parce que justement, on a la chance d'avoir encore des témoins de cette période, ils étaient jeunes, ils avaient 12-13 ans, mais ils ont quand même des souvenirs assez marquants, hein, qu'ils se méfiaient, ils avaient quand même peur. Ils avaient peur quand même, c'était assez très tendu.
Peur les uns des autres.
Oui, peur les uns des autres. Il y avait aussi juste ce qu'ils avaient constaté, une très grande sévérité, les Allemands, envers leurs troupes.
Alors, un fait qu'on a omis, il faut peut-être quand même signaler, c'est que bon, on sait qu'une partie de la forêt de Boucone se trouve sur la commune de Mondonville. Et il y a eu un camp militaire à Boucone, semble-t-il, à la fin du 19e siècle.
Tout à fait, il y avait un camp militaire. Les soldats qui étaient stationnés dans Toulouse venaient s'entraîner des manœuvres et aussi à tirer au tir dans la forêt de Boucone. Bien entendu, ils ne pouvaient pas tirer dans Toulouse. Donc, ils allaient dans il y avait un champ de tir qui existe toujours, qui n'est plus utilisé, bien entendu, mais qui a été utilisé même jusque par les Allemands, dont les soldats venaient pendant les beaux jours 3 ou 4 mois. Et ils venaient sous des marabouts. Alors, bien entendu, les officiers avaient leur messe, enfin, en dur, sur le dur. Et ces soldats, donc, venaient rester quelques semaines, 2 ou 3 semaines, s'entraîner.
Et ce camp existait pendant près d'un siècle, je crois.
Voilà, tout à fait.
Entre 1880 et donc 1980, c'est ça?
Non, 1960, 1940, je crois, une chose comme ça. Enfin, à la fin de la guerre.
D'accord, voilà. il a disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il existe pas mal de photos, d'ailleurs, de ce cas, c'est des
cartes postales.
Des cartes postales, c'était un truc relativement important quand même. Hein.
Alors, Mondonville, depuis la libération, depuis 1945, alors comme beaucoup de communes aux alentours, il y a eu du changement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une commune très 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 rurale à une commune qui s'est petit à petit urbanisée et qui continue à s'urbaniser avec une population qui grossit à grande vitesse.
Ben oui, disons que c'est le lot de toutes les communes limitrophes de la métropole. Quoi. Les gens, vu le prix, s'éloignent de plus en plus du centre de Toulouse. Et donc, Mondonville est parti sur pas loin de 6000 habitants bientôt.
Oui, et ça a commencé, surtout dans les années 70, à grossir la population.
Qu'à la fin de la guerre, il y avait 500 habitants, à peu près, je veux dire, ces choses-là.
Presque que des agriculteurs et quelques artisans, sans doute.
Oui, mais là, maintenant, il y a un renouveau il faut reconnaître qu'il y a un renouveau de gens qui travaillent. Enfin, il y a un supermarché, il y a tout un tas de trucs, de petits commerces qui se montent. C'est en train de repartir un peu, parce qu'il y a eu, pendant quelques temps,
Et après, il y a aussi quand même un laboratoire de semences, Euralis, qui est installé sur le commune de Mondonville. Aujourd'hui, c'était la RAGT.
Et c'est une commune où il demeure quelques exploitants agricoles. Hein. C'est une des communes de la métropole où il reste des exploitants agricoles.
Il doit rester en activité 3 ou 4 exploitants agricoles. Et après, il y a pas mal de terrains qui sont en jachère. Voilà,
par contre, qui sont plus cultivés. Hein.
Par contre, si on a quand même un producteur de choux. De différentes variétés de choux.
Un maraîcher, donc.
Oui, mais justement, il ne fait que des choux.
Que du chou.
Et aussi, bien sûr, des élevages de chevaux, du gardiennage de chevaux pour aller, bien sûr, pour le loisir, les gens qui vont.
Et à la proximité de la forêt de Beaucon.
Qui vont se promener dans la forêt de Beaucon.
Eh bien, voilà, le temps passe et nous devons malheureusement conclure cette émission. Un grand merci à vous deux, Alain Poujol et André Valette, d'en avoir été les invités et d'avoir partagé avec nous toutes vos connaissances sur l'histoire et le patrimoine de votre commune, celles que vous avez accumulées avec vos camarades au sein de la section Histoire et Patrimoine du Foyer Rural de Mondonville, un groupe qui se réunit tous les deuxièmes mercredis du mois, c'est l'après-midi. Les bonnes volontés, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la commune mondonvilloise sont les bienvenus, inutile de le dire. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner et trouver des contacts sur le site web du Foyer Rural, www.foyerruralmondonville.fr. Notre prochaine émission sera consacrée à une autre commune de Toulouse Métropole, avec là encore une histoire, un patrimoine et un territoire à découvrir. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.